France Culture, 7h-9h, les matins d'été, Chloé Cambrelin.
Des milliers de personnes dans les rues hier encore, 2 morts depuis le week-end, 6000 personnes interpellées, au moins 250 blessés. Cela fait donc depuis dimanche que les manifestations, bien que violemment réprimées, se poursuivent à Minsk, mais aussi dans d'autres villes de Biélorussie. Depuis dimanche, et la réélection contestée d'Alexandre Loukachenko au pouvoir depuis 26 ans, créditée officiellement d'un peu plus de 80% des voix, moins de 10% pour celles qui se présentaient contre lui, Svetlana Tsikhanouskaya, depuis réfugiée en Lituanie. En 2010 déjà, il y avait eu des protestations, mais ceux qui connaissent ce pays disent que c'est autre chose aujourd'hui. Alors pourquoi maintenant? D'où vient ce mouvement? Comment peut-il évoluer? Quel rôle pour l'Europe, pour la Russie? Bonjour Alexandra Goujon.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, chercheuse au Centre de recherche et d'études en droit et sciences politiques, spécialiste de l'Ukraine et de la Biélorussie. Pour commencer, simplement, êtes-vous surprise par ce qui se passe depuis dimanche dans ce pays ?
Oui, je suis surprise. Je suis surprise par l'ampleur de la mobilisation, par le mécontentement exprimé de différentes manières et que l'on n'a pas l'habitude de voir en Biélorussie. Généralement, la répression et la peur sont assez efficaces. Hein, quelques centaines d'arrestations après une élection et c'est terminé. Là, effectivement, vous l'avez dit, on a affaire à autre chose et les manifestants se débattent, cherchent des moyens face à cette répression.
Alors, on va poursuivre évidemment, mais peut-être qu'il est important d'abord de poser quelques repères. On présente souvent la Biélorussie comme la dernière dictature d'Europe, sans refaire toute l'histoire. Comment s'est-elle formée? On est dans un pays d'un peu moins de 10 millions d'habitants, indépendance en 91, Loukachenko élu pour la première fois en 94. Qui est-il et comment a-t-il construit ce pouvoir dictatorial, Alexandra Goujon?
Alors, la mise en place du système autoritaire en Biélorussie, j'allais dire, ne diffère pas forcément de ce qu'on peut observer dans d'autres pays. Hein. Mmh. C'est la loyauté au chef, l'éradication de l'opposition. Il faut savoir que depuis le milieu des années 90, il n'y a pas d'opposition au sens institutionnel du terme, hein, c'est-à-dire ni au Parlement ou très faiblement, ni dans les institutions locales. On peut d'ailleurs se demander si l'opposition n'est pas devenue progressivement un mouvement clandestin finalement, hein, puisqu'il y a eu des arrestations d'opposants régulièrement. Et on a une très forte personnalisation du pouvoir. Alors ça, c'est pour les aspects politiques. Et quand même, lorsqu'on parle de dernière dictature, l'idée, c'est que la Biélorussie est aujourd'hui le seul pays européen à ne pas être membre du Conseil de l'Europe, notamment parce que c'est un pays européen, le seul qui utilise la peine de mort, avec des exécutions tous les ans. Et donc, effectivement, en dehors, j'allais dire, de la violation des droits de l'homme, il y a cet aspect-là. Alors, vous allez dire, comment tient ce régime, hein, pourquoi cette contestation aujourd'hui? En fait, Alexandre Loukachenko a mis en place une politique que l'on appelle le socialisme de marché, très peu de privatisation, des entreprises publiques, et beaucoup de subventions. Donc il y a un taux de chômage assez faible, hein. Le président a vraiment mis l'accent sur l'emploi et donc peu de transformations économiques, ce qui pour certains laissait penser que la Biélorussie allait craquer économiquement assez rapidement. Et finalement, le système a duré. Tiens. Alors il tient, non pas parce que la Biélorussie a énormément de ressources, elle en a assez peu par rapport à son voisin, et c'est son voisin qui l'aide beaucoup, hein, à travers des lignes de crédit, voilà, la Russie, pardon, des lignes de crédit, des aides financières, de l'énergie à bas prix, mais c'est un partenariat ou une fraternité, ça dépend comment on pourra y revenir, comment on le qualifie, qui est parfois contrarié, hein, de notre point de vue très fortement déséquilibré, mais Loukachenko cherche à maintenir des marges de manœuvre, hein, et à ne pas être totalement absorbé par la Russie, y compris sur le plan économique ou stratégique.
Alors nous reparlerons effectivement tout à l'heure des liens avec la Russie, mais donc la précédente élection présidentielle en 2010 avait elle aussi été suivie de manifestations violemment réprimées. Qu'est-ce qui fait que c'est différent cette fois? Vous parlez de la situation économique, justement, certains notent qu'elle s'est tout de même dégradée. On parle aussi de la gestion de la crise sanitaire qui a pu jouer un rôle.
Oui, tout à fait. Alors, effectivement, on met beaucoup l'accent sur la dégradation de la situation économique. En fait, Loukachenko insiste beaucoup sur la stabilité, mais aussi sur la protection, hein, c'est-à-dire je suis votre protecteur. Et effectivement, la gestion de la crise a beaucoup surpris parce que Loukachenko, au début, l'a pris à la légère. Il s'est même moqué, j'allais dire, de patients atteint de la Covid-19 et a dit en quelque sorte que on pouvait passer outre un certain nombre de mesures. Il n'y a pas eu de confinement, les écoles sont restées ouvertes et la population donc a jugé que ce président soi-disant protecteur avait pris un petit peu trop à la légère cette pandémie. Alors il est revenu dessus juste quelques jours avant le jour de l'élection, en disant que son souhait avait été de maintenir l'économie, hein, et que finalement cette gestion sans confinement n'avait pas été si catastrophique que cela. Donc il s'en est justifié, j'allais dire, en ayant un propos un peu plus mesuré par rapport à des propos précédents qui avaient fait un peu scandale dans le pays. Mais je crois aussi qu'il faut mettre l'accent sur une nouvelle génération, hein. Les jeunes d'aujourd'hui disent qu'ils n'ont connu qu'un seul président, ils ont internet, ils se renseignent, ce sentiment de stagnation, de non-évolution, parce que c'est une société aussi qui est fortement contrôlée, hein, où la liberté d'entreprendre est très difficile,
l'absence de perspective, quoi.
Voilà, et en fait ces derniers temps beaucoup de jeunes sont partis travailler en Russie, en Pologne, et là je crois que c'est principalement, en tous les cas, ces jeunes que l'on retrouve dans les rues, et surtout qui manifestent un sentiment d'injustice, c'est-à-dire que les falsifications, le contrôle de la procédure électorale a toujours existé en Biélorussie, mais là il est tellement massif il y a comme cette obligation qui se démultiplie de vouloir, comme on dit aujourd'hui en Biélorussie, défendre son vote, hein, défendre sa voix.
Alors il faut parler bien sûr de Svetlana Tsikhanouskaya, qui se présentait donc face à Loukachenko, dire et rappeler qu'elle avait pour programme de rendre le pouvoir et d'organiser de nouvelles élections libres. C'était ça ce qu'elle proposait.
Oui, tout à fait. Alors, cette opposante, aujourd'hui, hein, principale opposante, qui affirme avoir gagné les élections, en tous les cas, qui demande de recompter les voix, c'est en fait la femme d'un blogueur qui a été empêchée, hein, de se présenter, d'être candidat, qui est actuellement d'ailleurs emprisonné. Il y a un autre candidat qui est en prison et un troisième opposant potentiel dont la candidature n'a pas été validée et qui est aujourd'hui donc en Russie. Alors, Svetlana Tsikhanouskaya s'est présentée justement aussi, comment dire, pour réparer l'injustice qu'il y avait à ce que ces trois hommes potentiels opposants ne puissent pas être candidats. Et effectivement, assez rapidement, son objectif a été affiché de dire « Nous voulons des élections libres. Je suis celle qui représente le retour à la liberté, à la transparence. Et donc, je vous propose non pas de garder le pouvoir si je suis élue, mais de faire une Biélorussie démocratique et de faire en sorte que les candidats empêchés puissent être candidats dans une nouvelle élection. »
Alors, sans vouloir être dans la provocation, puisqu'il ne recule devant rien, pourquoi Loukachenko l'a-t-il laissé se présenter? Est-ce qu'il n'a pas vu, il n'a pas compris qu'elle pouvait susciter quelque chose avec cette promesse simple, mais en même temps si forte, au fond, d'organiser de vraies élections?
Oui, tout à fait. Là, il y a une sous-estimation, en fait. À la fois du phénomène de cette femme, mais aussi n'oublions pas que les épouses des deux autres candidats, voilà.
Elle était avec deux autres femmes.
Deux
aussi.
Autres femmes des deux autres candidats potentiels. Ce trio féminin, comme on l'appelle, donc que Loukachenko ne pouvait pas voir, mais en tous les cas, il a sous-estimé en tous les ce potentiel de mobilisation, notamment à travers des propos un peu misogynes. Bon, on va laisser une femme se présenter complètement. D'ailleurs, une femme s'était déjà présentée précédemment et avait fait 1 ou 2%. Donc voilà, on ne va pas, ça ne peut pas faire grand chose. Et puis et donc il y a eu bien évidemment une sous-estimation de ce potentiel-là et une sous-estimation en fait du mécontentement social. Mmh, mmh. C'est-à-dire que en Biélorussie, enfin le contrôle est tel que il y a peu de sondages, que les sondages sont truqués et on peut se poser la question de l'information qui arrive réellement au président. Est-ce que les services lui donnent accès à des informations fiables et là
c'est-à-dire vous pensez qu'il est totalement coupé de la réalité
quoi. Bah là les réactions qu'on a eues, la réaction qu'on a eue hier lors d'une réunion au sommet pour évaluer la situation laisse penser effectivement que il y a une incompréhension totale et que c'est pas nécessairement que de la stratégie. En fait, il dit que les gens qui sont dans la rue sont aujourd'hui des gens qui sont sans emploi, ouais. Et que c'est pour ça qu'il manifeste et il demande à ses différents ministres de leur trouver des emplois. Donc on est dans quelque chose d'assez surréaliste du point de vue de la réaction présidentielle aujourd'hui.
Alors, pour dire encore un mot sur Svetlana Tsikhanouskaya, elle est donc désormais en Lituanie. Il y a ces messages vidéo où elle appelle au calme. On ne sait pas trop ce qu'elle en est. Elle a été menacée. Qu'est-ce qu'on sait de sa situation en réalité, Alexandra Goujon?
Alors effectivement, Svetlana Tsikhanouskaya s'est rendue à la commission électorale centrale pour déposer une plainte par rapport à des violations qui avaient eu lieu lors du dépouillement des voix. Et elle est restée près de 3 heures dans ce lieu. On s'est demandé ce qui se passait. Aujourd'hui et quelques heures plus tard, on a appris qu'elle était en sécurité en Lituanie. Une première vidéo a circulé où elle explique sa décision. Elle dit qu'elle va sans doute être comprise par certains et peut-être haïe par d'autres, que voilà, mais que voilà, elle parle de ses enfants qu'elle avait déjà envoyés à l'étranger compte tenu des menaces qui pesaient sur elle. Et puis une deuxième vidéo est apparue où là elle est dans la pénombre, dans un canapé qui ressemblerait à celui de la directrice de la commission électorale centrale, où elle appelle au calme. Et donc visiblement, elle a subi des menaces, enfin du chantage sur sa famille, ce qui est assez fréquent à la fois dans ce type de régime et en Biélorussie. On parle aujourd'hui d'éventuel retrait du droit parental, etc. De choses de ce type. Et n'oublions pas que son mari est également en prison. Donc voilà, c'est la décision qu'elle a prise. Elle a été soutenue par les deux femmes, qui la soutenaient. Mais ça laisse ce mouvement aussi sans leader, ce qui est voulu par le pouvoir. Il faut savoir que on suppose que les autorités biélorusses, d'ailleurs, lui ont proposé de partir avec ce chantage. Il faut savoir que l'exil, il y a un certain nombre d'opposants qui sont en exil déjà, et que c'est une technique qui a déjà été utilisée. On préfère laisser partir des opposants potentiels plutôt que de les garder dans le pays. Ou quand on les garde, on les met sous pression.
Alors, concernant les manifestations, donc on évoquait tout à l'heure dans la revue de presse internationale la répression, la violence avec laquelle ces manifestations sont réprimées. Quel est le degré de loyauté des forces de sécurité vis-à-vis de Loukachenko? Certains analystes disent que la seule bascule possible, en fait, serait une scission soit au sein de l'élite biélorusse, soit au sein de ces forces de sécurité, de ces brigades anti-émeutes. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est imaginable, Alexandra Goujon?
Alors, aujourd'hui, hier, pour la première fois, on a vu quelques vidéos de soldats, de policiers, de forces spéciales jeter à la poubelle leurs uniformes. Alors, pour l'instant, ce sont des épiphénomènes, mais visiblement, ce que l'on demande de faire à certains hommes armés n'est pas acceptable. Cette scission est toujours possible. La question est de savoir, là, il y a une sorte de défection. Mais comment les forces de l'ordre vont pouvoir à un moment donné éventuellement se mettre du côté de la population et j'allais dire écouter un autre son de cloche, hein. Et là on a très très peu d'informations sur qui éventuellement à l'intérieur du régime pourrait se retourner contre le président. Ce système biélorusse avec cette verticale du pouvoir, cette loyauté personnelle est orchestré de manière à ce qu'il n'y ait aucun réseau de solidarité horizontale, y compris au sein des administrations. Loukachenko aime beaucoup, depuis qu'il est au pouvoir, changer, renouveler son équipe, changer les personnes de poste, justement pour que il n'y ait pas, de contestation de l'intérieur. Par contre, on peut supposer qu'aujourd'hui, la peur est telle, enfin, il gouverne tellement par la terreur, y compris à l'égard, de son administration, que il y a un potentiel. Mais est-ce que ce potentiel va être exploité? C'est très difficile.
Oui, c'est évidemment difficile
de le dire.
Oui. Alors, vous êtes spécialiste, Alexandra Goujon, de la Biélorussie et de l'Ukraine. Certains, surtout au début, ont fait un parallèle avec l'Ukraine. Ont vu un nouveau Maïdan. D'autres disent que ça n'a rien à voir. Vous en pensez quoi?
Alors, effectivement, c'est très très différent. D'ailleurs, le mot Maïdan, qui veut dire place, le suggère. En Ukraine, aux pires heures des pratiques autoritaires, il y a toujours eu une opposition parlementaire, avec une tribune politique, un pluralisme politique respecté. Donc les révolutions se sont toujours appuyées sur cette opposition politique institutionnelle. Comme je le disais tout à l'heure, en Biélorussie, il n'y a pas cette opposition. Il y a quelques partis politiques et quelques figures d'opposition, que je ne veux pas, parfois d'ailleurs très très courageuses, qui régulièrement manifestent et qui régulièrement se retrouvent en détention. Mais il n'y a pas cette assise. C'est différent. La mobilisation est beaucoup plus éparpillée. Là, le centre est bloqué. Les moyens de transport ne fonctionnent pas le soir. Internet est bloqué. On voit aujourd'hui plutôt des manifestations éparpillées dans les banlieues proches de Minsk, et alors que Maïdan, c'est vraiment place organisée, une occupation de l'espace public.
Alors évidemment, il faut parler aussi des rapports avec la Russie et le rôle qu'elle peut jouer dans cette affaire, le rôle de l'Union européenne également. Alexandra Goujon, nous vous retrouvons pour poursuivre cette discussion après le journal et la chronique de Libération. Vous êtes, je le rappelle, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, spécialiste de la Biélorussie et de l'Ukraine. Nous vous retrouvons donc à 8h20.
France Culture, les matins d'été, Chloé Cambrelin.
Il est 8h20 et nous retrouvons notre invitée Alexandra Goujon, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, spécialiste de l'Ukraine et de la Biélorussie, pour continuer à essayer de comprendre ce qui se passe depuis dimanche et la réélection contestée d'Alexandre Loukachenko au pouvoir depuis 26 ans. Nous avons parlé avant 8h de lui, de celle qui s'était présentée dimanche face à lui, Svetlana Tsikhanouskaya, en promettant d'organiser de nouvelles élections et qui est depuis réfugiée en Lituanie. Nous avons parlé des racines de ce mouvement, de la manière très violente dont il est réprimé. Il faut aussi évidemment parler, Alexandra Goujon, de la Russie. Quel est l'état des relations avec Moscou?
Alors, si on se place du point de vue russe, l'objectif de la Russie, c'est d'avoir, des alliés géostratégiques dans son voisinage. Une des raisons de la guerre en Ukraine, c'est le rapprochement de l'Ukraine avec l'Union européenne et l'OTAN. Et Loukachenko joue bien ce rôle, d'allié géostratégique. Il n'y a pas de volonté de se rapprocher de l'Union européenne ni de l'OTAN. Donc, de ce point de vue-là, la Russie est très attentive à ce qui se passe en Biélorussie. Elle veut à tout prix éviter une révolution, une révolution politique. Les relations entre Poutine et Loukachenko sont des relations toutefois compliquées. Loukachenko ne se laisse pas toujours faire. La Russie aimerait développer cette union russo-biélorusse, mais Loukachenko ne veut pas perdre de pouvoir. La Russie aimerait être impliquée davantage économiquement en Biélorussie. Souvent, le président biélorusse résiste. Donc, il y a une tension entre les deux chefs d'État. Le président russe a félicité Alexandre Loukachenko pour sa victoire. On a quand même eu, par exemple, on se demande un peu pourquoi, mais un député de la Douma qui s'occupe des affaires de la CEI, c'est-à-dire de la communauté des États indépendants qui réunit quelques États post-soviétiques et qui a déclaré qu'Alexandre Loukachenko n'avait sans doute pas gagné les élections. Donc il y a quelques petites voix comme ça dissonantes et on pense que la Russie aujourd'hui attend de voir ce qui va se passer. En tous les cas, pour l'instant, il n'y a pas de soutien franc et massif à la répression ou au discours, qui aujourd'hui circule en Biélorussie sur ces manifestants.
Oui, il y a plutôt une position en retrait presque.
Oui, un peu attentiste, sachant encore une fois que si la Russie intervient, elle voudra sans doute s'assurer de la transformation du régime. C'est-à-dire l'idée, ce n'est pas de libéraliser, comme ça a pu se passer en Ukraine, par exemple. Alors la différence, c'est que justement, il n'y a pas de la part des manifestants aujourd'hui, il n'y a pas de revendication géopolitique. La dernière révolution en Ukraine, c'était une révolution pro-européenne parce que l'enjeu, c'était justement la signature d'un accord d'association avec l'Union européenne. Alors, le rapprochement avec l'Union européenne est aussi perçu dans ces pays-là, non pas simplement comme l'entrée dans une organisation européenne, mais aussi comme le maintien de l'état de droit, ou plutôt le rétablissement de l'état de droit, de la démocratie, l'amélioration des conditions de vie. Donc il y a aussi bien évidemment cet aspect-là. Pour l'instant, on est plutôt, les manifestants scandent des slogans pour faire dégager le président. On a vraiment un sentiment d'écarter le président du pouvoir, de rétablir les libertés politiques, la liberté d'entreprendre et d'autres. On n'a pas pour l'instant de revendication de rattachement à l'Union européenne. Même si il y a un appel quand même à la communauté internationale pour soutenir le mouvement.
Alors justement, il y a une réunion demain des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. On évoque de possibles sanctions. En l'occurrence, Alexandra Goujon, il y en avait des sanctions et elles ont été levées en 2016, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Alors, Là aussi, l'Union européenne a une stratégie toujours assez mesurée vis-à-vis des sanctions. C'est-à-dire que ce n'est pas une organisation. Les dirigeants européens n'aiment pas, mettre en place des sanctions avec un pays. Ils le font lorsqu'ils s'en sentent obligés. Hein. Il y a des sanctions à l'égard de la Russie aujourd'hui, en raison de l'annexion de la Crimée et de la guerre en Ukraine. Et avec la Biélorussie, il y a eu régulièrement des sanctions. Et puis, lorsque le président biélorusse, qui essaye de jouer d'ailleurs assez souvent, hein, lorsque la Russie fait pression sur le président biélorusse, eh bien, il a un discours un petit peu plus pro-européen. Et dans ce cas-là, les dirigeants européens, suspendent les sanctions, lèvent une partie des sanctions pour pouvoir renouer le dialogue. Mais en fait, les marges de manœuvre de l'Union européenne sont très faibles. Elles sont très faibles parce qu'on a affaire à un régime autoritaire qui,
qui par ailleurs n'a pas vraiment de lien économique. Enfin, je veux dire, on peut pas appuyer sur ce levier-là, par exemple.
Tout à fait. Après, on pourrait aller au-delà en se demandant si les sanctions économiques ont réellement un impact sur les pays lorsque, on pose sur l'Iran, voire sur la Russie également. En Biélorussie, on pourrait se dire oui, la dégradation économique est un signe. Un facteur de mobilisation, mais je crois que ce n'est pas le seul. Donc l'Union européenne, il y a cette menace de sanctions, mais il faut savoir que pour que les sanctions soient imposées, ça nécessite l'unanimité. Et là, on sait qu'il y a des divisions au sein de l'Union européenne.
Si la Russie attend de voir si l'Union européenne n'a pas de marge de manœuvre, qui peut faire quoi là? Comment on peut, puisqu'il y a des appels effectivement à la communauté internationale, qui pourrait avoir l'oreille ou un poids suffisant sur Loukachenko pour faire que les violences cessent?
Contrairement à ce qu'on croit, même s'il y a des soutiens étrangers à des mouvements populaires nationaux, locaux, ce sont ces mouvements-là qui permettent de transformer un régime politique. Dans cette zone, on parle souvent de Loukachenko le fait, d'intervention américaine. Aujourd'hui, d'ailleurs, il a utilisé, dans ses élections, l'intervention russe. La Russie cherche à déstabiliser le pays. Donc, on parle beaucoup de l'étranger. Et il y a un soutien, il y a un fonds de soutien à la société civile européenne. Donc, on peut pas dire que l'Union européenne ne fait rien. Mais, bien évidemment, elle va essayer d'éviter les formes d'ingérence qui pourraient d'ailleurs être exploité par la suite. Donc en fait, la transformation du système politique, elle passe par ce qui peut se passer dans le pays lui-même, parce que vous avez déjà évoqué une scission au sein de l'appareil d'État que l'on ne voit pas venir pour l'instant. Enfin, en tous les cas, si ça se fait, c'est plutôt en sous-main. Et surtout, Loukachenko a vraiment veillé à ce qu'il y ait, encore une fois, un contrôle, que les administrations se contrôlent entre elles, et pour éviter ce type de scission. Après, il faut voir aussi que la répression est extrêmement brutale. J'aimerais y revenir.
Oui, bien sûr.
Elle est arbitraire. Il faut savoir que, d'ailleurs, hier, on a eu des manifestants, pour la première fois, des médecins qui manifestaient pour demander de stopper la violence. Pourquoi ? Parce qu'on a vu des forces spéciales utiliser des ambulances. Ça, c'est une petite chose qu'on avait vu d'ailleurs en Ukraine, ou du moins des gens qui étaient qui n'osaient pas aller dans les services hospitaliers de peur d'être arrêtés. Et là, les médecins ont dit non, c'est pas possible. On est là pour sauver des vies, on n'est pas là pour autre chose. Donc voilà, on voit cette contestation, j'allais dire, se développer ici ou là. Ceci dit, le mécontentement existait notamment dans les cuisines, c'est-à-dire les gens expriment un mécontentement même s'il y a n'y a pas forcément de mobilisation, mais est-ce que ça va prendre suffisamment d'ampleur et est-ce que voilà, la répression ne va pas avoir le dessus, là est la question.
Avec cette stratégie de la terreur, effectivement, et en même temps, ces images qui, malgré tout, arrivent jusqu'à nous. Et hier, on a vu aussi ces chaînes de femmes habillées en blanc à Minsk et dans d'autres villes pour dénoncer précisément la violence, la répression. Dans Mediapart, une chercheuse aussi spécialiste de ce pays dit « la peur est tombée ». Est-ce que c'est comme ça que vous le voyez aussi, Alexandra Goujon? Est-ce que c'est ça aussi qui est en train de se passer? Parce que voilà, continuer à descendre dans la rue avec tout ce qui se passe par ailleurs, cette répression énorme, c'est quand même déjà avoir un courage quand même assez remarquable. Et est-ce que ça veut dire justement que voilà, on n'a plus peur?
Oui, je suis assez d'accord. Encore une fois, si on voit les élections précédentes, les mobilisations post-électorales étaient réprimées et cette répression suffisait. Aujourd'hui, d'ailleurs, on a commencé à parler hier d'utilisation de balles réelles. Oui. Ça veut dire que la répression doit être vraiment massive. On a vu des voitures de police se lancer contre des voitures de civils parce qu'en fait, il y a une mobilisation aussi sonore, hein, très forte, c'est-à-dire les véhicules en fait klaxonnent, hein, donc dans les rues en soutien aux manifestants qui sont sur les trottoirs. Hier on a vu aussi des personnes, puisque sortir dans la rue devient compliqué, arrestation arbitraire, on a vu des quartiers en fait où les gens scandaient des slogans par la fenêtre, donc dans des immeubles avec donc on voilà, la peur est tombée et les femmes sont fortement mobilisées, notamment aussi auprès des prisons, hein, puisqu'elles vont chercher leur fils dont elles sont sans nouvelles. Et les femmes, en dehors de ce trio féminin de Svetlana Tikhanovskaya dont nous avons parlé, là elles jouent un rôle effectivement de premier plan. Donc la question qu'on peut se poser, c'est voilà, est-ce que de toute façon, là, la légitimité du président, elle est largement, elle est réduite. Et voilà, est-ce que c'est une question de mois, d'années, comment le pouvoir va essayer de rétablir une légitimité qui, de toute façon, sera très très faible.
Et c'est impossible, évidemment, de savoir ce qui va se passer, mais on suivra tout ça, évidemment. Merci beaucoup, Alexandra Goujon, maîtresse de conférence en sciences politiques à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, chercheuse au Centre de recherche et d'études en droit et sciences politiques, spécialiste de la Biélorussie et de l'Ukraine. Merci beaucoup d'être venue sur France Culture ce matin.